Les titres du journal de la mi-journée.
Nous commencerons avec Mathias Reynard. Le conseiller d'État fera un bilan de ses 100 premiers jours après son entrée en fonction. Mais ce n'est pas tout. Il nous annoncera aussi une reprise rapide du travail de réforme des soins psychiatriques dans le canton. Les Verts vaudois ont fait hier leur rentrée politique. Climat, mobilité piétonne et aboutissement des derniers grands dossiers de la législature figurent à leur programme au cours des mois à venir. Sans oublier les élections cantonales de 2022. Nous nous rendrons à Berne pour connaître les dernières estimations concernant les votations du 26 septembre, à savoir le mariage pour tous et l'initiative 99%. En automobilisme, se tiendront ce week-end les 24 heures du Mans, une épreuve qu'affectionne Sébastien Buemi, triple tenant du titre. Il tentera de glaner un quatrième succès dès demain. Et nous terminerons par le dernier épisode de notre série sur les cabanes et buvettes de la région. Direction aujourd'hui la buvette des Mossettes.
Du soleil et des moutons, le bulletin météo complet en fin de journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolas. Thierry, bonjour.
Bonjour Caroline. Le streaming fait son entrée à TEDx Martigny. À l'occasion de la 10e édition, les organisateurs s'associent à la nouvelle start-up high-tech valaisanne Streamly pour proposer une expérience digitale unique. La soirée de conférence du vendredi 3 septembre se déroulera au théâtre Alambic et sera également retransmise en direct via une plateforme interactive. Cette collaboration vise à promouvoir les événements culturels et les rendre accessibles à tous.
Mathias Reynard tire un premier bilan de son travail au gouvernement valaisan 100 jours après son entrée en fonction.
Le conseiller d'État socialiste a vu son entrée en fonction marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Une entrée en matière immédiatement concrète, donc, qui tranche avec ses expériences passées de parlementaire fédéral, Mathias Reynard.
C'est très concret, c'est rapide, c'est des décisions qui peuvent être prises rapidement. C'est les mains dans le cambouis, le conseil d'État. Et c'est vrai que c'est passionnant, c'est la possibilité de faire bouger les choses rapidement, de lancer typiquement un projet pilote sur le soutien psy pour les jeunes qui souffrent aujourd'hui, où il y a une augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes avec cette crise. Et puis, ben voilà, on constate le problème, et bien on apporte une solution rapide, concrète, qui change la vie des gens. Et ça, c'est le plus beau dans la politique, c'est quand on peut améliorer le quotidien des gens.
Concret, on pouvait s'y attendre. Rapide, c'est pas un peu plus surprenant ?
Oui, c'est surprenant et ça change de Berne où il fallait 7-8 ans pour faire bouger quelque chose, comme je l'ai vécu pour la norme contre l'homophobie. Là, si on reprend le thème de l'homophobie, bien c'est la possibilité très vite de commander une étude sur la situation dans le canton, d'avoir des mesures qui sont envisagées déjà pour l'année prochaine. Et ça, c'est évidemment passionnant et c'est le fruit du travail d'une équipe. Mon état-major, mais aussi tous les services de l'État, tous les gens avec qui on travaille de façon très étroite, les hôpitaux, les institutions liées au domaine du département, et c'est le fruit d'un travail d'équipe, vraiment.
Vous avez aussi insisté sur la continuité, bien sûr, on ne réinvente pas la roue. Parlons de la crise sanitaire, vous vous engagez dans une stratégie qui était déjà là, elle est basée sur les trois axes.
Oui, c'est une stratégie qui était déjà là, qu'on connaît dans les autres cantons aussi, les tests, les vaccins, le contact tracing, donc le suivi des cas. Voilà, on fait de notre mieux. On a des équipes qui, depuis une année et demie, travaillent comme des fous, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le service de la santé publique, à Promotion Santé Vallée. C'est vraiment très, très intense pour elle et eux. Quand on prend des décisions et quand on doit trouver des solutions face à cette pandémie, on pense surtout aux personnes concernées, aux patients, aux proches des patients, aux personnes frappées par la maladie. Et puis, on essaye de prendre les bonnes décisions de façon peut-être un peu moins spectaculaire que ce qu'on peut voir chez nos voisins français, mais de façon plus consensuelle, en ayant des solutions qui viennent du terrain, qui viennent des hôpitaux, qui viennent des EMS, qui nous disent leurs besoins, et puis on avance de cette façon-là.
Comme chez nos voisins, on est dans une période de recrudescence du virus, les variants, les cas qui doublent de façon inquiétante. On voit se profiler en Valais des grands événements, ce sera le cas de la Foire du Valais au début du mois d'octobre. Votre département suit cette situation, on risque des nouvelles mesures ?
On suit tout ça de très près, on espère de tout cœur de pas avoir besoin de prendre des nouvelles mesures. Il faut bien comprendre qu'on n'a aucun plaisir à prendre des mesures. Moi je suis le premier à aimer la liberté, les grands événements, les cafés, les restaurants, la vie culturelle. On est les premiers punis aussi par ces mesures. Et c'est extrêmement important de poursuivre avec la politique qu'on a eue, les gestes barrières, la vaccination, qui nous permet pour l'instant, même si on a une explosion des cas, faut dire, on a jamais en gros eu autant de cas en 2021 par jour. On a une explosion des cas, mais on n'a pas encore une explosion des hospitalisations. Ça, c'est grâce à la vaccination. L'immense majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des gens qui arrivent à l'hôpital sont des gens non vaccinés. Et voilà, c'est sûr qu'il y a la responsabilité individuelle, mais il faut bien comprendre ce qui va avec et que les conséquences pour la santé des gens peuvent être vraiment, vraiment graves.
La préoccupation nationale sur la vaccination est assez claire. Les Suisses ne se vaccinent pas assez ou plus assez. Vous avez-vous donné des chiffres plutôt optimistes sur la vaccination en Valais ? C'est réaliste ?
Mais c'est, en fait, c'est pas si optimiste. C'est pas assez haut, c'est sûr. Quand on a 90% chez les plus de 70 ans, on se dit on est les meilleurs de Suisse, c'est vrai, c'est super. Mais en fait, les 10% restants, ça fait quand même pas mal de personnes très vulnérables qui peuvent attraper la maladie. Puis ce qu'il faut dire surtout, c'est oui, on essaye de communiquer positivement parce qu'il faut arrêter de faire croire que la moitié des gens ne veulent pas se vacciner. Ça, c'est des bêtises. Deux tiers des gens qu'on souhaite vacciner, les plus de 16 ans, sont déjà vaccinés par au moins une dose. Il y a une minorité qui doit être respectée, qui ne veut pas se vacciner pour le moment. Et puis que nous, on essaye simplement de bien informer, de bien voir les conséquences pour la santé, pour les proches. Voilà, donc on ne veut pas être dans une... Moi, je ne veux pas être ni dans l'alarmisme, ni dans une situation où on est complètement optimiste puis on dit qu'il n'y a aucun problème. On essaie d'informer de la façon la plus factuelle. C'est vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien. J'informe aussi beaucoup sur les chiffres, sur les réseaux sociaux pour que les gens voient les données et puissent décider en fonction de cela.
Pour ce qui concerne les perspectives, Mathias Reynard annonce entre autres choses de nouvelles aides pour la culture et la poursuite d'une politique proactive pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. Il a aussi annoncé la reprise rapide du travail de réforme des soins psychiatriques dans le canton, une réforme qui avait provoqué de nombreux blocages dans le Chablais au Grand Conseil à cause du statut de l'hôpital de Malévaux. Pour surpasser ces blocages, Mathias Reynard compte sur une meilleure intégration des acteurs concernés.
Le dossier avait été bloqué suite à des réticences du côté montaisan, mais aussi de façon générale au Grand Conseil. Par contre, le besoin de moderniser, évidemment de moderniser le site de Malévaux, mais aussi de moderniser de façon générale le concept de psychiatrie, il est reconnu par tout le monde. Donc on ne va pas rester les bras croisés. On prend dès le début la commune de Monté et l'hôpital dans le groupe qui va mettre en place cette révision du concept de psychiatrie. Puis j'espère qu'on pourra trouver une solution de consensus qui à la fois garde le site de Malévaux comme un pôle et vraiment un site qui est important dans le domaine de la psychiatrie et qui a une histoire et qui a des compétences, et puis en même temps qui répond aux besoins, par exemple pour des hospitalisations de courte durée dans lesquelles on a vraiment aujourd'hui des lacunes. Donc je suis assez confiant qu'on va trouver les bonnes solutions. C'est aussi une question de façon de faire. On doit plus mettre les gens ensemble autour de la table.
Un sujet signé Florian Barbet. La presse valaisanne est mise en lumière. En marge des 100 ans de son association, la médiathèque Valais et les archives de l'État s'associent et proposent d'explorer son histoire. L'exposition « Revue de presse, un regard sur plus de 100 ans de presse en Valais » reflète les journaux du canton, les métiers du journalisme et les différents enjeux qui gravitent autour de cette corporation. Elle est à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au 30 octobre aux Arsenaux de Sion. Sa déclinaison haute valaisanne se tient parallèlement à la médiathèque Valais-Brigue.
Les Verts ont fait leur rentrée politique hier.
À leur menu, dans les semaines et mois à venir, une action décidée pour la protection du climat, des politiques ambitieuses aussi pour la mobilité piétonne, sans oublier l'aboutissement de grands dossiers de la législature, comme notamment l'utilisation des 300 millions votés par le Grand Conseil en faveur des énergies renouvelables, la loi sur l'exercice des droits politiques ou encore la loi sur le patrimoine bâti. Et puis il y a les élections cantonales 2022. Actuellement, le Parlement vaudois compte une majorité de droite, contrairement au gouvernement. Selon les Verts, cela a pour conséquence une absence de compromis. Et le Parti écologiste souhaite que cela change. Il veut une majorité de gauche, comme nous le confirme son président Alberto Mocchi.
Aujourd'hui, effectivement, on a déjà une majorité de gauche au Conseil d'État. Mais là où parfois on peine à faire passer nos idées, nos projets, c'est au niveau du Grand Conseil, ou des blocages avec les partis de droite. Et on pense que les Verts et les Verts peuvent progresser fortement au niveau du Grand Conseil et se rapprocher le plus possible d'une majorité de gauche dans ce Grand Conseil.
Vous avez 22 députés, vous ne l'avez pas caché, 30 ce serait bien pour vous, c'est donc une belle marge de progression, elle est réaliste?
On l'espère, après ça sera aux électrices et aux électeurs de savoir si cela est réaliste ou non, mais disons que les résultats des dernières élections fédérales et des dernières communales nous montrent que l'électorat vert a beaucoup progressé ces dernières années. Il y a de plus en plus de vaudoises et de vaudois qui veulent voir des écologistes dans les parlements, et donc on a bon espoir de pouvoir progresser fortement.
Au premier tour, vous allez partir avec le Parti Socialiste ?
C'est notre souhait, ce sera à l'Assemblée Générale des Verts de le décider dans le courant de l'automne. En tout cas, pour la direction du parti, il est clair que c'est avec le Parti Socialiste qu'on a aujourd'hui une majorité au Conseil d'État, qu'on siège aussi en bonne entente dans la plupart des exécutifs communaux du canton, et on souhaite continuer dans cette ligne-là avec une alliance avec le PS.
Vous pourriez devenir le troisième parti en importance du Grand Conseil vaudois ?
C'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on est à quelques députés de l'UDC, et si la tendance se poursuit, on devrait dépasser l'UDC. Mais pour nous, ce n'est pas un objectif en soi. Nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer les idées vertes, indépendamment de si on est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième parti.
Lors des élections communales vaudoises, il y a eu une grosse poussée des Verts. Il y a moyen de capitaliser sur cette belle campagne des Verts au communal ?
On l'espère. On voit que l'électorat vert s'accroît d'élection en élection depuis quelques années. On a des nouvelles personnalités aussi qui ont émergé grâce à ces élections communales. Aujourd'hui, les Verts et les Verts sont bien implantés partout dans le canton. Donc on pense que l'élan qui a été celui des élections communales doit pouvoir se poursuivre pour ces cantonales.
On le disait il y a un instant, hein, belle campagne des Verts au communal. C'est réjouissant à quelque part de constater qu'aujourd'hui, les Verts ne sont plus un parti urbain comme on l'a souvent entendu dire jusqu'à maintenant.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Verts sont devenus un parti qui est implanté partout dans le canton. Vous avez des petites communes rurales où les Verts font des meilleurs scores électoraux que dans des grandes villes. On a des élus, on a des membres, des sympathisants dans des villages comme en ville. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'urbains qui sont proches de l'écologie face à des ruraux qui, eux, seraient moins sensibles à ces questions. Là, les Verts sont devenus un parti cantonal et c'est réjouissant.
Il y a un parti qui entend foncer ces prochains mois.
Oui, on a le vent en poupe, autant garder le cap. Enfin, les urgences environnementales sont là. On a des belles personnalités, on a des idées claires, on a des objectifs ambitieux et on souhaite aller de l'avant.
Alberto Mocchi, interrogé par Yves Terrani, vous dire encore qu'il faudra attendre le mois d'octobre pour savoir si la conseillère d'État des Verts, Béatrice Métraux, se représente au Conseil d'État. Elle y est depuis 10 ans. Pour Alberto Mocchi, son bilan est excellent et elle a encore des projets, mais c'est à elle de décider, estime ce dernier. La commission du Grand Conseil vaudois soutient unanimement le projet de révision totale de la loi sur l'exercice des droits politiques. À l'issue de 10 séances de travail, elle souhaite qu'il soit rapidement débattu au Grand Conseil afin de permettre son entrée en vigueur pour les élections cantonales de 2022. Il n'y aura pas de procédure sur une éventuelle violation des règles sanitaires à Moutier. C'est le ministère public Jura-Bernois-Zélande qui l'a déclaré aujourd'hui. Pour rappel, lors des festivités marquant le rattachement de Moutier au canton du Jura au mois de mars, de nombreux participants ne portaient pas de masque. Une dénonciation avait été envoyée au ministère public demandant à sanctionner les personnes ayant participé à ce rassemblement. Le ministère public explique qu'il serait incohérent de mener des investigations pour identifier, sur la base d'images, des personnes susceptibles d'avoir violé les règles sanitaires.
41 jeunes ont été dénoncés après la RICS à Palaisieux en février dernier.
Lors de cette enquête menée par les gendarmes d'Oron, il est ressorti que 11 mineurs avaient participé à cette bagarre. Tous les jeunes ont admis la majorité des faits reprochés. Des instructions pénales seront ouvertes par le tribunal des mineurs des cantons de Vaud et Fribourg.
Un oui net au mariage pour tous, oui très fragile à l'initiative, 99%.
À 6 semaines de la votation fédérale du 26 septembre, le sondage GFS Berne pour le compte de la RTS confirme celui du groupe Tamedia diffusé il y a une semaine. Ainsi, le soutien au mariage pour tous est net à 69%. Celui à l'initiative des jeunes socialistes pour taxer plus lourdement les gains en capital et plus chancelants à 46%. Analyse des chiffres avec notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin.
L'électorat suisse est favorable aux progrès sociétaux. Il avait accepté le congé paternité à un peu plus de 60% il y a un an. Il devrait dire un oui encore plus net au mariage civil pour les couples homosexuels le 26 septembre. Le sondage de GFS Bern réalisé durant la première quinzaine d'août donne 69% d'acceptation contre 29% d'opposants et seulement 2% d'indécis. Trois quarts des sondés disent avoir arrêté formellement leur choix. L'égalité est l'argument qui fait mouche. Parmi les opposants, la moitié de l'électorat UDC, les adversaires systématiques des autorités et les membres des églises chrétiennes libres. Dans les communautés catholiques et réformées, le oui est comparable à celui de la société en général à plus des deux tiers. La perspective est beaucoup plus incertaine pour l'initiative 99% des jeunes socialistes. Elle affiche certes une courte majorité de 46% contre 45% d'opposants, mais elle est en dessous de la barre des 50%. 9% des sondés sont indécis, sans compter que les initiatives perdent systématiquement du terrain en cours de campagne. Deux éléments à retenir, plus le revenu est élevé et moins il y a de soutien à l'initiative. Le point d'inflexion est à 7000 francs par mois. Étonnamment, les campagnes sont plus favorables à l'initiative que les villes, pourtant plus à gauche, peut-être justement parce que les revenus ont tendance à y être inférieurs.
Précisons que Guy F.S. Berne a interrogé plus de 22 000 titulaires du droit de vote. La marge d'erreur est de 2,8%. À l'étranger, en France, les pompiers de la Côte d'Azur travaillent d'arrache-pied pour lutter contre le plus gros incendie de l'année. Ils sont attelés à noyer les lisières de feu avant une reprise du vent attendue dans la journée. Voici 5 jours que les soldats du feu luttent contre des flammes qui ont fait déjà 2 morts. Plus de 7000 hectares de forêt ont été brûlés dans les environs de Saint-Tropez. Raoul Covin, le père des Tuniques Bleues, est décédé hier à l'âge de 82 ans. L'auteur belge avait annoncé début mai être atteint d'un cancer incurable. Il avait créé les Tuniques Bleues en 1968. Cette bande dessinée à succès d'une rare longévité racontait les aventures de 2 soldats américains lors de la guerre de sécession.
La Nouvelle-Zélande prolonge son confinement national.
L'archipel l'a annoncé aujourd'hui pour tenter d'endiguer la propagation du variant Delta. La première ministre Jacinda Ardern a annoncé que le confinement national de 3 jours, qui devait être levé aujourd'hui, est prolongé de 4 jours. Les autorités tentent d'évaluer l'ampleur de l'épidémie après l'apparition cette semaine du premier cas local depuis 6 mois. La Nouvelle-Zélande a été saluée à l'étranger pour sa gestion efficace du coronavirus. Seules 26 personnes sont décédées depuis le début de la crise. La campagne de vaccination peine toutefois à se développer, puisque seuls 20% de la population a reçu les 2 doses. Et nous passons au sport. En tennis, Jill Teichmann a cueilli hier soir la plus belle victoire de sa carrière. La gauchère a éliminé la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka, au tournoi WTA 1000 de Cincinnati. La Suissesse s'est imposée 3-6, 6-3, 6-3 et retrouvera Belinda Bencic en quart de finale. Il s'agira de la 2e rencontre entre les 2 joueuses. De son côté, Belinda Bencic justement s'est qualifiée après l'abandon de la Tchèque Karolina Muchova. La championne olympique menait 7-5, 2-1 au moment de l'interruption du match.
En automobilisme, Sébastien Buemi tentera de remporter un 4e succès aux 24 heures du Mans.
Pour la 4e épreuve du championnat du monde d'endurance, les pilotes de cette catégorie ont rendez-vous en France dès demain. La 89e édition des 24 heures du Mans pourrait permettre aux Chablaisiens de s'imposer une nouvelle fois sur le circuit tricolore. Un circuit qui sera garni de spectateurs, même si son nombre sera limité. Dans les sports automobiles, l'impact du public est différent, mais reste important, comme le souligne Sébastien Buemi.
Oui, alors bon, c'est pas comme d'autres sports, le tennis ou le foot, où voilà, vous entendez, vous voyez les spectateurs. Là, c'est un petit peu différent. On est dans une voiture avec un toit, on a le casque. Les spectateurs sont pas tout près, mais quand même, c'est vrai que ça manque. Il faut admettre, ça manque de pas avoir les fans. On a l'impression de faire une sorte d'essai privé et pas une course. Vraiment, donc bon, une fois qu'on est dans la voiture, on fait assez abstraction et on se concentre sur nous. Mais disons, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir des fans. C'est ça qui fait vivre le sport. Donc pour nous, c'est impératif que des fans reviennent sur les circuits.
Une toute dernière question, Sébastien Buemi, avec une éventuelle 4e victoire d'affilée aux 24 heures du Mans. Est-ce qu'on pourra dire que malgré tout, votre année 2021, elle sera alors réussie, quoi qu'il advienne?
Ah, ça c'est sûr que si on arrivait à gagner les 24 heures, elle serait réussie, même si voilà, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes en Formule 1 cette année. C'est sûr qu'une victoire au Mans serait déjà fantastique. Ça nous propulserait aussi bien pour le championnat, pour se battre pour le championnat du monde d'endurance. Donc bon, voilà, il reste encore énormément à faire, mais on va se préparer au mieux, on va faire le mieux possible et on verra à la fin de la course.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Les 24 heures du Mans débutent donc demain et jusqu'à dimanche. L'occasion pour Sébastien Buemi de peut-être remporter un 4e succès consécutif sur le circuit tricolore. Cet été, la rédaction de Radio Chablais vous a emmené dans les hauteurs à la découverte des cabanes et des buvettes de la région. Aujourd'hui, déjà le dernier épisode de notre série, direction la buvette des Mossettes sur la commune de Saint-Légier-la-Chiesa, non loin des Pléiades. L'établissement a été remis à neuf durant cet hiver par une équipe de bénévoles et des coups de main de la part de la commune et d'entreprises du coin. 4 personnes sont à l'origine du projet, Anne Vanier, Patrick Colli, Corinne Berisville et son fils Vincent. Au micro de Quentin Frère, il explique le concept voulu pour la buvette.
On a vraiment repensé toute l'expérience autour de la buvette des Mossettes. On a voulu faire quelque chose de ultra convivial, de ultra local, et puis que finalement qu'on puisse accueillir tout type de personnes, à savoir des familles, à savoir des couples, des sportifs, des comédiens qui viennent. Voilà, le but c'était de redynamiser ce côté des Pléiades pour qu'on en fasse une vraie destination. Ben voilà, comme tu le vois aujourd'hui, on est en train de marcher sur le deck qui a été installé par nos bûcherons et puis qui offre une super visibilité à cette terrasse.
Voilà, alors là maintenant on va pouvoir rentrer dans le bâtiment pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors là, on arrive dans la salle principale. Alors, on a un joli bar en bois massif. Et ensuite, toute la salle, ça aussi, c'est tout du fait maison. On est encore toujours dans la même lignée.
C'est du fait maison, en fait, de la récup. Typiquement, le bar en bois, ça, c'est vraiment une planche qu'on a retrouvée dans la ferme familiale. Elle a des décennies. Et on l'a sablée. Et aujourd'hui, ben voilà, elle sert à quelque chose dans notre buvette, en effet.
Alors, je vais vous demander un petit exercice pour nos auditeurs. Décrire un peu cette grande salle, à quoi elle ressemble.
Ici, on a vraiment joué sur l'aspect authentique et chaleureux à 100%. Donc aujourd'hui, on voit vraiment un environnement qui est plein de chaleur, qui est ultra convivial et puis qui, je trouve, ergonomique. C'est-à-dire qu'il y a des tables, mais on ne se sent pas étouffé. Je trouve que c'est un joli milieu entre l'esthétisme et puis la convivialité.
Je m'appelle Corinne Berisville et je suis co-gérante de cette buvette avec mon amie Anne Vanier et mon frère Patrick Gully.
Cette buvette des Massettes, justement, à quel moment vous avez décidé, vous avez eu envie de reprendre cette buvette?
Avec Anne, mon amie, on aime bien les défis et les challenges. Nous avons collaboré plus de 30 ans dans un théâtre. Elle comme décoratrice et moi comme costumière. Et on avait besoin d'un nouveau défi et de se mettre un petit peu, de nous tester pour aller toujours plus loin.
Ça se passait peut-être du théâtre qui fait qu'on est dans une buvette, mais on n'est pas dans une buvette où on s'arrête et où on repart. On a envie de rester un peu, de traîner.
Certainement qu'on retrouve une mise en scène dans cette buvette pour que le lieu corresponde à nos envies et ce que nous voulions faire partager aux gens qui viennent nous trouver. C'est-à-dire un endroit où on se sent bien, où on se sent à l'aise, où on n'a pas envie de repartir, on oublie les téléphones, on oublie la vie courante et puis on vit une belle expérience parmi nous.
Cette expérience, elle se décline en plusieurs rendez-vous hein, tout au long de la saison. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ici?
On avait envie d'en faire un lieu culturel également. Nous avons une exposition d'une artiste qui s'appelle Caroline Catin. Et puis, en parallèle, nous organisons des concerts, des yoga brunch. Une cotatrice va venir. Notre saison n'est pas tout à fait encore au point, mais bientôt, notre petite saison va apparaître.
Une des choses qui nous frappe ici, quand on arrive dans une buvette, on s'attend plutôt à avoir des plats au fromage, des choses comme ça, un peu plutôt pour prendre des forces. Et puis là, en fait, on arrive et puis c'est assez harmonieux, subtil. C'était un peu l'idée aussi de casser un peu avec l'image qu'on a peut-être des buvettes de montagne.
Ah ben, bien sûr, bien sûr. Proposer autre chose. Et nous avons de la chance d'avoir notre chef Thibaut qui fait une cuisine tellement originale, légère, créative, très florale et qui nous correspond complètement à Anne et à moi et à Patrick. Et je crois que les gens sont friands de ces plats qui sont aussi bons que beaux.
On l'avait tellement sensé, puis vous l'avez déjà nommé deux fois, du coup je pense qu'on va aller le voir.
Bonjour à tous, ici Thibaut, du coup effectivement cuisinier, chef de cuisine au Massettes, la buvette qui a été mise en place cette année. Et voilà, je pense que Quentin a quelques petites questions à me poser.
Alors exactement, on va commencer par ce qui est l'essence un peu d'une buvette ou d'un restaurant, c'est les produits qu'on trouve ici à la buvette des Massettes, c'est tous des produits qui viennent du coin.
Effectivement, en amont, on a réussi à travailler au maximum en circuit court. Donc je me suis beaucoup déplacé, j'ai fait pas mal de kilomètres sur la période des travaux pour aller chercher justement les petits fournisseurs, aussi bien au niveau des maraîchers que du charcutier. Du coup, ça a été chouette parce que ça a permis de faire de nouvelles connaissances, découvrir de nouveaux produits, les goûter. Et maintenant, à mon tour de les mettre en valeur.
Et alors les assiettes, la touch un peu ici à la buvette des Massettes, c'est qu'on n'arrive pas face à une assiette de croûte au fromage ou comme ça, c'est un peu plus élaboré.
En effet, alors vous retrouverez tous les grands classiques de buvette, pas la croûte au fromage, je me suis battu avec le reste de l'équipe pour ne pas la mettre, je m'en excuse pour ceux qui écoutent, mais la croûte, j'arrivais pas. En revanche, vous allez trouver le rosti, la polente, la soupe de l'alpage, etc. Le tout, je vous avoue, légèrement revisité.
Et puis alors, s'il y a une assiette, un plat qu'il faut absolument essayer si on monte ici à la buvette des Massettes?
Et je vais dire le risotto. C'est pas très buvette, je vous l'accorde, mais il s'avère que voilà, je dois tenir ça de ma grand-mère ou je ne sais qui d'autre de mes ancêtres. Mais il s'avère que ouais, le risotto a beaucoup de succès et j'arrive à m'éclater avec parce que j'y apporte justement de, je pense, pas mal de touches originales qui majoritairement plaisent. Donc c'est chouette.
Pour se rendre à la buvette des Mossettes, viser les Pléiades, puis la fontaine des Potées. Ensuite, continuer sur la route direction Châtel-Saint-Denis pendant environ 10 minutes et vous y êtes. L'établissement est ouvert du mercredi midi au dimanche après-midi jusqu'au 31 octobre. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. C'était un reportage de Quentin Frey.
Ça donne faim. Alors vous savez quoi? Plutôt risotto, petite fondue, raclette?
Ah, il m'a quand même donné envie avec son risotto là.
risotto funghi.
En plus, ouais. Que, vraiment ça vaut la peine. Hein.
Merci Thierry Nicolas, merci, une très très belle journée.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Art Optique, lunettes, lentilles et solaires. Aroptique.ch.
À la piscine, youpi! Ouais, c'est vrai qu'il fait vraiment grand beau, semblerait-il, aujourd'hui, avec peut-être des cumulus le long des reliefs, mais en règle générale, ils sont inoffensifs. Et puis l'avantage, c'est que si vous vous couchez dans l'herbe, vous les observez et vous partez dans vos délires. On devient artiste, on imagine des formes, des dragons, des princesses et des châteaux. Côté température, on culminera à 26 degrés aujourd'hui. Si vous grimpez un petit peu, à 1000 mètres, on observera 22 degrés et à 2000 mètres, 15 degrés. Pour la suite de la semaine, bien, samedi, on parle d'un temps ensoleillé et chaud. Puis dimanche, peut-être un peu plus de nuages. Ça s'annonce donc un bon week-end. On va tous pouvoir bien profiter.